Proponemos al gobierno de los Estados Unidos.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
قررت الدولة الإسلامية.
L'État islamique.
La France est attendue pour éviter une catastrophe.
Il n'y a pas que la dictature, le chaos, la violence. Il y a la liberté, la démocratie, le vivre ensemble, la paix.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute d'une semaine dans le monde, l'actualité internationale en deux temps, tous les dimanches cet été. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Alors nous tenterons d'analyser en première partie d'émission cette tentative de coup d'état militaire en Turquie, tentative ratée ou matée entre vendredi et samedi. Le contrôle est rétabli selon le gouvernement, les réactions internationales de soutien sont apparemment unanimes, mais on s'attend à des purges importantes. Alors ce coup d'état renoue peut-être avec les souvenirs du kémalisme autoritaire, mais est-ce que ce sont les derniers feux ou bien le début d'une nouvelle ère pour l'autoritarisme? Que veut l'armée? Que va faire le président? On en parle dans quelques minutes avec Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie contemporaine à l'IFRI, et avec le rédacteur en chef du quotidien Zaman en France, Emre Demir. On joindra aussi au téléphone Jean-François Pérouse. Il dirige l'Institut français d'études anatoliennes. Il sera en direct d'Istanbul. Et en deuxième partie, nous reviendrons sur cette attaque terroriste en camion survenue jeudi soir en pleine fête nationale à Nice. Attaque revendiquée, on l'a appris hier, par le groupe État islamique et dernière d'une longue série d'attentats en France depuis les assassinats commis par Mohamed Merah il y a 4 ans à Toulouse. La France est en guerre, avait dit François Hollande le soir du 13 novembre dernier, en guerre face à un ennemi qui n'en respecte pas les règles et dont les soldats peuvent frapper partout, à tout moment. Alors comment repenser, ou du moins penser, une stratégie militaire contre le terrorisme ? Et en fin d'émission, bien sûr, vous retrouverez la chronique d'Hubert Védrine, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Cette semaine, c'est le multiculturalisme. Mais tout de suite, c'est notre revue d'actualité de la semaine.
Alors, retour sur les autres actualités de la semaine. Et d'abord, cette décision de la Cour pénale d'arbitrage de La Haye, mardi, qui a donné raison aux Philippines qui contestaient la souveraineté chinoise sur la mer de Chine. Pékin est en colère et ne compte pas en rester là.
En effet, Mélanie, si l'Europe et les États-Unis ont salué la décision de la CPA, eh bien, ces 497 pages ne sont que du papier bon à jeter, selon le vice-ministre des Affaires étrangères chinois, Liu Chenmin. Réponse donc à cette décision qui invalide l'argumentaire chinois fondé sur un droit historique à la souveraineté en mer de Chine, cette zone maritime internationale pour l'instant, hautement stratégique également et très disputée par au moins 6 pays frontaliers. Pékin y agit depuis quelques années presque comme chez elle, en multipliant ses installations sur les îlots qui la jonchent, et dans le flou juridique actuel, les intimidations militaires et incidents entre pêcheurs et gardes-côtes se sont multipliés. Alors cet arbitrage représente potentiellement un frein aux ambitions chinoises, mais pour la Chine, rien n'est réglé. Cao Yongsheng, lui, est le vice-président de l'association sino-française des juristes et économistes. Il intervient régulièrement dans le journal officiel Global Times. Alors sanctions, séduction, non, dit-il, récemment il préconisait le statu quo, autrement dit, la Chine continue.
Il faut d'abord comprendre c'est que l'attention régionale ne dépend pas de la Chine, parce que nous sommes encore un pays émergent, nous ne sommes pas comme les Américains, nous sommes comme les Français. L'économie, la croissance économique, la première priorité, on n'aime pas la guerre. Il y a l'histoire et il y a la pratique aussi, parce que dans ces dizaines d'îles, il y a une partie qui ont été occupées par les Philippines, et une autre partie par le Vietnam et par d'autres pays de l'ASEAN. Alors une autre partie, bien sûr, ont été préservées toujours par nous. C'est pour ça que je dis que les réactions chinoises officielles sont à la fois logiques et aussi avec une certaine souplesse. C'est-à-dire on va voir, on va négocier comment on va résoudre ce problème. Pour l'instant, il faut respecter le statu quo. Pour les autres îles occupées par d'autres pays, comme ceux que je viens de citer, là on ne va pas les chasser, on ne va pas faire comme ça. C'est pour ça qu'on adopte toujours la politique d'exploration commune. Moi, je crois que c'est faisable, mais ça ne peut pas être ouvert aux navires, enfin aux porte-avions. Mais bien sûr, les Américains sont là, ça c'est la réalité, mais théoriquement non.
Et la Chine qui a promis de répondre de façon déterminée à toute provocation. Mais le plus étonnant, c'est la grande discrétion du vainqueur, supposé les Philippines.
Oui, là, il se démarque vraiment. Les Philippines font littéralement profil bas. Le ministre des Affaires étrangères, Perfecto Yasay, appelle à la retenue. Il se contente lui aussi de saluer le jugement de la CPA, comme si les Philippines n'étaient pas parties prenantes. Victoire timide, donc est-ce une victoire qui fait peur? En fait, la procédure avait été lancée il y a 3 ans par l'ancien président philippin Benigno Aquino et le nouveau Rodrigo Duterte en a hérité. Donc, quelques jours avant le jugement, il se disait même prêt à négocier avec la Chine. Alors certes, les Philippines ont gagné, mais cette victoire est peut-être un cadeau empoisonné. Écoutez les explications de François-Xavier Bonnet, il est géographe de l'IRASEC, basé à Manille.
Pour les Philippines, c'est un peu à double tranchant, parce que c'est donc une grande victoire, mais en même temps, il va falloir gérer l'après-victoire, et ça, c'est avec la partie la plus compliquée. C'est cette partie, en fait, de diplomatie de l'ombre, en quelque sorte, où tout va se jouer en dehors de la lumière médiatique. Ça va dépendre, en fait, de la gestion de la question par l'administration Duterte et par les alliés américains, australiens, japonais. Et donc, il va falloir, en fait, jongler entre la population philippine, qui est extrêmement sensible à cette question-là, surtout des groupes de pêcheurs, entre autres, qui ont été touchés par la question du Scarborough Shoal et qui risquent d'avoir envie d'aller plus loin et éventuellement de provoquer un peu plus. Et c'est en fait en même temps un collectif, puisque les Philippines ne sont pas les seules dans l'ensemble. Donc on peut imaginer aussi que certains pays comme la Malaisie ou l'Indonésie s'intéressent de près et éventuellement déposent aussi une requête au tribunal international.
Voilà, et puis j'ajoute que la spécialiste de la Chine, Alice Ekman de l'IFRI, jointe au téléphone, souligne que tout cela se déroule sur un fond d'inquiétude chinoise croissante et réelle, quelques jours après l'annonce de l'installation d'un système antimissile américain en Corée du Sud.
Et en Europe, la Croatie, en pleine crise politique, se retrouve sans parlement. Il vient d'être dissous vendredi dernier après des semaines de polémiques et de scandales.
Oui, et après la chute du nouveau gouvernement de coalition patriotique. C'est le nom de l'alliance inédite entre le parti conservateur historique, l'Union démocrate de Croatie, le HDZ, qui avait dirigé le pays lors de la guerre contre la Serbie, mais qui se trouve depuis des années en difficulté électorale et alliance avec un ensemble de petits partis plus régionaux et locaux, plus conservateurs encore, très cléricaux même, qui s'appelle le MOST, ça veut dire le pont. Alors ce devait être la solution au manque de popularité, mais les effets ont été pires encore. Malgré le choix d'un Premier ministre apolitique en gage de neutralité, eh bien la ligne de cette nouvelle alliance s'est vite droitisée et les scandales n'ont pas manqué. Ministre nostalgique de l'ancienne Croatie alliée des nazis, tentative de musellement de la presse, sur fond de retour du cléricalisme. Finalement, c'est le chef du HDZ lui-même qui a fini par démissionner à cause lui d'une affaire de conflit d'intérêts. Aujourd'hui donc, l'image du HDZ et du personnel politique croate est très dégradée, les tensions internes sont fortes et c'est donc sur ces ruines qu'il faudra aller à de nouvelles législatives le 11 septembre et reconstruire un parti capable de gagner une majorité. Son nouveau chef sera choisi ce soir dimanche, sauf coup de théâtre, ce devrait être le député européen Andrei Plenković.
Mon objectif, c'est vraiment de positionner HDZ dans la juste place dans le spectre politique croate où il était avant. Moi, je crois que nous sommes une partie populaire, partie qui respecte les valeurs démocratiques, les valeurs universelles d'égalité entre les femmes et les hommes, les droits de l'homme, les droits de minorité. Il faut vraiment accentuer l'économie de marché social, aider les plus faibles dans la société et en même temps valoriser le travail. Mais je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une opinion publique où beaucoup des électeurs ont identifié mon parti comme responsable. Mais j'ai encore du temps de regagner cette confiance et faire un très bon résultat, même gagner. Mais je crois qu'enfin, si on doit former un gouvernement, une coalition après les élections, moi, je suis ouvert pour la coopération avec le PON, mais dans les nouveaux bases et nouveaux fondements de cette coopération.
Voilà, un recentrage du HDZ, donc pour donner des gages de stabilité politique aux partenaires européens, 3 ans après l'intégration de la Croatie dans l'Union européenne et alors que la reprise économique s'amorce. Et retour maintenant à nos invités, Dorothée Schmidt de l'IFRI, bonjour.
Bonjour.
Et Emre Demir, rédacteur en chef du quotidien Zaman, bonjour.
Bonjour.
Pour évoquer, je le disais, cette fin de semaine en Turquie très mouvementée, dans la nuit de vendredi à samedi, une partie de l'armée turque a tenté de prendre le pouvoir à Ankara et à Istanbul. La situation a été confuse et brutale, des combats ont éclaté, combats aériens, tirs nourris, scènes de lynchage même. Finalement, le contrôle a été rétabli par les autorités turques hier dans la matinée, disent-elles. Le bilan est de près de 265 personnes tuées, dont une cinquantaine de civils et une centaine de putschistes. 3000 militaires ont été arrêtés et, plus étonnant, presque autant de juges et de procureurs. Échec pour les putschistes, donc, qui voulaient, je cite, « restaurer l'ordre constitutionnel, la démocratie, les droits de l'homme et les libertés ». Alors, c'est un coup d'État d'une nuit, un coup d'État raté ou mal préparé. On va voir ça. En tout cas, une tentative étrange et qui pose question. Le président Erdogan a notamment appelé la population à sortir dans les rues. On a beaucoup vu à la télévision les partisans de son parti l'accaper, entourés de drapeaux turcs. Et les inquiétudes, maintenant, sont pour la société turque. Que fera le pouvoir ? Le Premier ministre a déjà envisagé un rétablissement de la peine de mort. C'est une situation en tout cas inédite pour le président Erdogan. En long décrochage de popularité et taxé de dérive autoritaire. Cette fois, la légitimité revient de son côté. Mais il a aussitôt accusé un de ses principaux rivaux exilés aux États-Unis, Fethullah Gulen. Alors la guerre civile est évitée, mais ce soulèvement est un don de Dieu car il nous offre l'opportunité de nettoyer l'armée, c'est ce que dit le président Erdogan. L'armée est peut-être plus que cela. Alors on va peut-être revenir sur les événements tout simplement de la nuit de vendredi à samedi, ce coup d'État qu'on dit raté. Raté pourquoi ? Je vais juste rappeler quelques faits. Donc il y a deux villes qui ont été visées principalement, deux villes, Ankara, la capitale, et Istanbul. Certains lieux stratégiques ont été attaqués, le QG des services secrets à côté du palais présidentiel lui-même bombardé, la chaîne de télévision nationale, la TRT, et puis à Istanbul on a vu ces déploiements de chars autour de l'aéroport et puis sur les deux principaux ponts du Bosphore. Donc on a toutes les apparences d'un coup d'État, mais il a été tactiquement très vite arrêté. Et puis cette fois peut-être l'armée n'était pas unie, Dorothée Schmidt.
Oui, alors comme vous l'avez bien résumé, en fait on sort d'une tentative de coup d'État militaire en Turquie sur fond de grande instabilité régionale au Moyen-Orient et en Turquie même, de violences politiques montantes en Turquie, les attentats se multipliaient, l'État turc était à la fois la cible d'attentats djihadistes de l'État islamique et d'une cette guérilla kurde qui se développe essentiellement à l'est du pays, donc un pays qui allait déjà très mal. Et aujourd'hui, on a ce contre-pouvoir traditionnel historique en Turquie qu'est l'armée, qui a déjà, je vous le rappelle, perpétré 4 coups d'État depuis la fondation de la République, qui se manifeste à nouveau, alors que pratiquement depuis l'élection de la KP au pouvoir en 2002, on a cette espèce de fantasme d'une partie de la Turquie kémaliste, de la Turquie d'opposition. On avait cette espèce de fantasme de coup d'État militaire qui semblait être devenu totalement improbable. Et puis à nouveau, depuis 1 ou 2 ans, on en parlait beaucoup. Mais personne n'y croyait vraiment. Et d'une certaine façon, le fait que le coup d'État ait eu l'air d'être si mal préparé, qu'il ait des côtés si amateurs, qu'il ait raté si vite, conforte un petit peu cette vision que ça n'était plus possible, que finalement l'armée turque, elle était quand même ralliée à Erdogan, qu'elle était en gros dans sa majorité, elle était devenue soit pro-AKP, soit en tout cas la fusion entre le pouvoir politique et militaire s'était faite en Turquie. Et puis aujourd'hui, ça vole quand même en éclats, parce que même c'est une fraction minoritaire de l'armée qui a mené ce coup d'État, il n'empêche qu'il y a eu un coup d'État, il est suffisamment important pour que les alliés de l'OTAN aient mis beaucoup de temps à se prononcer sur la situation en Turquie. Aujourd'hui, la base d'Incirlik, dont partent les avions qui effectuent des frappes contre Daesh dans le sud-est de la Turquie, en Syrie et en Irak, est fermée. Donc on a toute une partie du dispositif militaire occidental qui est bloquée par ces événements. Et paradoxalement, on nous présente Erdogan comme le grand gagnant et comme sortant renforcé de ces événements, alors que je ne suis pas sûre que ce soit le cas.
Alors on va en reparler, Emre Demir, simplement sur cette impréparation du coup d'État. On voit qu'il y a certaines forces qui ne font pas partie de la chaîne de commandement, c'est Erdogan qui l'a souligné lui-même, qui ont été impliqués, certains généraux, le commandant en chef de la 2e armée turque, commandant du 3e corps d'armée, et puis un général de l'armée de l'air également qui devait partir à la retraite ou qui est déjà parti à la retraite, vous le dites dans Zaman. C'est qui ces putschistes ? Qui est-ce qu'ils représentent au sein de l'armée ?
D'abord, à mon avis, j'étais abasourdi, choqué par l'impréparation de ce coup d'État, mais aussi la violence aveugle de ce coup d'État. Je le considère comme un attentat suicide, une attaque terroriste, parce que il y a eu des coups d'État en Turquie, c'est pas la première fois. Et quand on fait un coup d'État, on essaie de gagner le cœur du peuple. Donc en attaquant sur le civil avec des hélicoptères militaires ou attaquer l'Assemblée nationale avec un avion de chasse. Et donc ça, c'était à mon avis très très très bizarre, incompréhensible, et qui a attiré en fait la foudre de la population entière en Turquie. Et donc c'était un attentat terroriste, et ce qui m'a choqué quand même, c'est que on sait qu'en Turquie, personne ne veut un coup d'État. C'est fini cette période et que même les opposants de l'AKP, les laïcs, les nationalistes, etc., ils étaient contre à une telle tentative. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais c'était une erreur fatale, à mon avis, qu'on aura des répercussions très très dures sur le long terme.
Oui, parce qu'il faut souligner, effectivement, je disais, le QG des forces spéciales a été attaqué, par exemple, mais également le Parlement a été bombardé en pleine session.
Oui, en plus, il y a des situations un peu bizarres. Par exemple, ils ont envoyé une cinquantaine de soldats pour contrôler la place Taksim, 25 soldats pour prendre le chaîne public. Et puis le nombre de soldats, c'était quand même un peu bizarre. Donc on voit beaucoup de généraux, des généraux haut gradés dans la liste des personnes arrêtées, mais très peu de soldats. Donc ça aussi, c'est très bizarre. Et pour revenir à votre question, il me paraît comme une sorte de coalition. Par exemple, quand on regarde les listes des généraux, des personnes un peu importantes qui sont considérées comme des cerveaux, on voit toutes sortes de profils, kémalistes, etc. Donc, on n'a pas vraiment un tableau très net de la tendance idéologique de ce tentative, de ce groupe putschiste. Mais il y a beaucoup d'analyses, par exemple, autour d'une scission kémaliste. Une partie qui défend une alliance avec l'OTAN qui est plus pro-européen ou pro-américain. Il y a aussi l'autre partie qui défend un rapprochement avec la Russie et la Chine, l'alliance de Shanghai, etc. Donc il y avait déjà ces scissions qu'on observait depuis 10 ans. Ça peut être le cas où dernièrement on parle aussi beaucoup sur des généraux qui attendaient l'éviction de l'armée au début de l'août, où il y aura une réunion très importante, ce qu'on appelle l'IAGE. Et c'était une tentative un peu désespérée de ce généraux qui attendait l'éviction.
Ce que vous appelez tentative suicide, presque un coup d'État qui n'était pas fait pour aboutir, on pourrait dire. Donc, en tout cas, on n'est pas dans une perspective kémaliste de restauration historique d'un pouvoir de l'armée. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il faut penser, à votre avis, Dorothée Schmidt, de ces accusations qui ont été émises presque tout de suite par Recep Tayyip Erdogan contre Fethullah Gülen, qui est donc... on pourrait dire son ancien allié, ennemi historique maintenant, exilé aux États-Unis. Peut-être on peut le présenter en deux mots et expliquer pourquoi est-ce qu'il est autant visé en ce moment.
Alors, avant de revenir un peu sur Fethullah Gülen, je pense que pour expliquer l'accusation portée contre Fethullah, il faut en venir à la psychologie de Tayyip Erdogan. Donc là, c'est évidemment, il faut s'exprimer de façon très mesurée et très... très délicate, mais c'est un homme de pouvoir qui s'est forgé une stature d'homme d'État, qui considère qu'il est responsable de l'avenir de la Turquie et qui doit faire face à des circonstances exceptionnelles tout le temps, une situation très chaotique, et qui donc veut poser en homme fort et en homme providentiel. On voit que dans la façon dont il accommode psychologiquement cette situation où il a beaucoup de pression, on a des tendances autoritaires, une ultra-personnalisation du régime et des tendances un peu paranoïaques, je crois qu'on peut le dire, parce qu'aujourd'hui on est rentré dans une ère... Bon, là maintenant on va avoir des purges absolument massives, hein, évidemment en Turquie, pas seulement dans l'armée, comme on l'a dit, la justice aussi, qu'il continue de nettoyer massivement.
Il a dit qu'on l'avait visé personnellement.
Voilà, donc
à Marmaris, où il était.
Ouais, donc c'est quelqu'un qui se sent menacé et qui interprète tout en fonction de sa propre personne, qui est à la tête d'une sorte de révolution islamo-nationale en Turquie. Et donc là-dedans, on a des réflexes de désignation de l'ennemi. Qui se sont mis en place très clairement depuis quelques années et depuis au moins 2013, qui est le moment de la brouille avec le mouvement donc de Fethullah Gülen, qui est une sorte de confrérie islamique un peu occulte dont le patron se trouve aux États-Unis. Donc là, on se retrouve avec des accusations d'implication des services secrets américains, de la CIA, etc. Ça vient derrière. Maintenant, on a une brouille turco-américaine en préparation à cause de Fethullah Gülen. Donc ces accusations-là, elles sont très classiques depuis 2013, où Tayyip Erdogan a mené une guerre sans merci au mouvement de Fethullah Gülen et où il a nettoyé quand même, à mon sens, extrêmement largement l'appareil d'État de tous les partisans de Fethullah Gülen. Et on se demande un petit peu s'il en reste encore des centaines et des milliers dont il faut se débarrasser. Donc ça représente plutôt à une espèce d'explication, de scénario qu'il faut servir au peuple turc en continuité, puisque ça fait 2 ans que pratiquement Gülen est accusé de tous les maux, de toutes les catastrophes qui se passent en Turquie. Je peux vous dire que si la Turquie s'était pas réconciliée avec la Russie de manière très spectaculaire il y a 10 jours, à mon avis, Vladimir Poutine aurait été cité probablement parmi les complices. Voilà.
Et alors, ça c'est pour les accusations qui ont été lancées. On va peut-être reparler tout de suite de la psychologie, ou en tout cas des intentions de Recep Tayyip Erdogan. On va faire un petit détour par Istanbul à ce sujet. Jean-François Pérouse, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être au téléphone avec nous, donc en direct d'Istanbul. Vous êtes le directeur de l'Institut français d'études anatoliennes. Vous êtes également l'auteur d'Erdogan, nouveau père de la Turquie, paru cette année chez Bourin, donc cette année 2016. Et c'est la première biographie du président Erdogan. Peut-être un petit point simplement sur la situation que vous percevez à Istanbul. Dans la nuit de vendredi à samedi et toute la journée d'hier, donc c'était le couvre-feu qui avait été instauré par les autorités. Mais là, on a plutôt l'impression, vue d'ici en tout cas, d'un certain retour à la normale. On a eu hier des scènes qu'on pourrait presque dire de liesse plutôt que des exactions de la foule en colère. La réouverture de l'aéroport d'Istanbul, la reprise de la session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'il en est de la situation que vous pouvez voir et vivre à Istanbul?
Oui, on peut dire que la normalisation a été très très rapide. Et en fait, la population n'a été interdite de sortir dans la rue. Hein. Ça, il faut bien le dire. Hein. Parce qu'en fait, les putschistes n'avaient aucun relais dans la société civile et aucun relais dans le champ partisan. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti politique. Hein, et on a bien vu l'unanimité en moment même du bombardement dans le Parlement. Hein, a pris le parti des putschistes. Et donc, bon, la population, dans sa très très grande majorité, n'a pas adhéré. Hein. Donc ça, c'est fondamental. Et donc, ça explique aussi le fait que la vie reprenne, hein, sachant qu'il reste encore quelques foyers, hein, parce que il y a des arrestations qui se poursuivent. On en est à 6 000, mise en garde à vue hein, de militaires. Hein, et les responsables de garnison, vous voyez, dans la Turquie entière. Hein, et ce qui est très intéressant de souligner quand même, et ce qui explique aussi que le mouvement kurde est très silencieux actuellement, c'est que parmi les putschistes ou les militaires favorables hein, au putsch, on a beaucoup de personnes qui ont joué hein, dans la répression de ces derniers mois un rôle très très négatif hein, à Diyarbakır, à Cizre, à Şırnak. Hein, et donc là, pour l'avenir de la question kurde en Turquie, ce putsch va considérablement changer les choses, je pense.
Ça va changer les choses, vous dites, je vous interromps juste une seconde, ce putsch pourrait changer les choses pour l'avenir de la question kurde, Dorothée Schmidt ou Emre Demir, vous êtes d'accord?
Je veux Emre juste Demir. Dire que c'est, il faut peut-être ajouter que c'est, on assiste aussi à l'effondrement des institutions étatiques en Turquie, et commençons par l'armée turque. Donc l'image de l'armée turque était quand même sacrée en Turquie, on a vu des civils, essais de lynchage, des décapitations des militaires, donc l'image de l'armée va se dégrader très très vite en Turquie, mais aussi on a vu aussi une division au sein de l'armée, une désorganisation totale au sein de l'armée. Ça va effectivement affecter en fait le rôle de l'armée turque, soit dans la guerre dans les régions kurdes, soit aussi dans les relations avec les régions, dans des guerres dans les régions, y compris la Syrie, l'Irak, Russie, etc. Donc son image est dégradée et on verra les résultats. À mon avis, les généraux qui ont été arrêtés peuvent être remplacés par d'autres généraux qui sont prêts à attaquer des villes kurdes. Hein. Je ne pense pas qu'au fond, la stratégie contre le PKK ne va pas changer.
De ce point de vue-là, ce n'est pas une bonne nouvelle alors pour la situation des Kurdes, Dorothée Schmidt.
Je ne sais pas si Jean-François Pérouse vous a suggéré que les ultra-anti-kurdes de l'armée vont être purgés et que donc on va aller vers un apaisement.
Ça avait l'air d'être ce qu'il disait.
Je ne pense pas que la stratégie anti-PKK, la décision de mener une guerre à outrance contre le PKK relève uniquement de l'armée. Je pense que l'armée est l'instrument de ça, mais je pense que Tayyip Erdogan s'est très clairement exprimé lui-même pour cette faveur de cette stratégie. Donc ça serait une extrêmement bonne nouvelle si le processus de paix avec les Kurdes reprenait après le coup d'État. Mais ça me semble pas très probable.
Alors Jean-François Pérouse, de nouveau sur ces putschistes, on a vu qu'un des premiers lieux à être investi justement par les putschistes, c'était Istanbul, l'aéroport, les ponts et puis aussi la place Taksim. Il y a eu 25 soldats qui étaient là-bas, nous disait Emre Demir. C'est pas beaucoup pour occuper une place. Comment est-ce que vous analysez, disons, cet investissement de la ville par les putschistes, un investissement tout symbolique finalement?
Oui, et puis absolument, enfin mal réglé, quoi. Et puis surtout, on a l'impression que ce tout a été conçu dans l'ignorance totale des dynamiques sociétales et de ce qui était devenu la Turquie, quoi. On ne sait plus les conditions de 1980. Par exemple, les réseaux sociaux fonctionnaient très bien et ça a joué un rôle très très important. Et puis, on peut supposer quand même qu'il y avait eu des renseignements, puisque ce qui est très frappant, et on le voit encore maintenant devant les casernes, tous les engins de la mairie d'Istanbul, les gros engins de travaux, ont été très rapidement placés à l'entrée des casernes ou autres. Donc, il y a eu tout une réplique organisée. Et là aussi, il y a un pouvoir que les putschistes n'ont pas vu dans le jeu social, enfin, et le jeu politique, c'est le pouvoir des municipalités. Et les municipalités ont joué un rôle très, très, très important. Et en premier lieu, là, à Istanbul comme à Ankara, les municipalités métropolitaines qui ont mobilisé leur personnel, et parmi les chiites, les martyrs, il y a beaucoup, beaucoup de personnel municipal, puisque notamment au pied de la du bâtiment central de la municipalité d'Istanbul, on a eu des affrontements, preuve que là aussi, il y avait des acteurs importants. Donc je crois que là, c'est cette ignorance des dynamiques sociétales, outre le fait que ce n'est qu'une partie infime de l'armée qui a suivi, surtout l'armée de l'air, une partie de la marine, qui explique les choses, et on peut supposer aussi, alors maintenant, y a-t-il eu l'instrumentalisation, ça, il est beaucoup trop tôt pour le dire, que très vite, enfin, un dispositif pour contrer ce qui se passait a été mis en place, les renseignements ont finalement fonctionné.
Instrumentalisation, qu'est-ce que ça signifierait? Vous voulez dire on a une réaction qui est presque plus organisée que le coup d'État lui-même?
Oui. Ce qui est très étrange, c'est qu'au moment, vous voyez, du retour sur Istanbul de Recep Tayyip Erdogan, qui était à Marmaris, en vacances, alors que la ville était terrorisée par les jets qui passaient sur la ville en franchissant le mur du son, et c'était d'une violence extrême. Les enfants, en gros, les personnes âgées, ça a été un moment quand même terrible, auquel d'ailleurs tout le monde fait référence à Istanbul à l'heure actuelle. Comme par hasard, tout s'est tu au moment où Recep Tayyip Erdogan a fait sa déclaration, et il a pu faire son bain de foule, sortir de l'aéroport. Enfin, là, il y a quelque chose qui s'est produit et qui donne à réfléchir.
Et précisément, on va dire un mot de la réaction de Erdogan. Simplement, du point de vue social, vous le disiez, quelle analyse est-ce que vous en faites? Si je cite le politologue Ahmet İnsel, lui, il expliquait dans Le Monde hier que ce sont en gros les divisions de la société turque qui se sont répercutées au sein de l'armée. Est-ce que vous êtes d'accord?
Là, non, l'armée, enfin, est un monde quand même très, très, très à part, ce qui frappe, on n'a peut-être pas suffisamment parlé quand même, parce que c'est quand même l'accusation principale, du lien entre le putsch et Fethullah Gülen. Ce qu'il faut voir, c'est que l'armée, le mouvement Fethullah Gülen a contribué à former, à financer, les études de nombre de jeunes militaires, qui a une génération de redevables. Et on peut supposer que parmi les putschistes, ceux qui ont suivi, il y avait ces redevables. Donc là, il y a un lien objectif qu'on peut souligner. Après, répercuter les contradictions, oui, dans la mesure où une grande partie de l'armée n'a pas suivi, je trouve quand même qu'il y a une adhésion à ces valeurs de démocratie, de société civile, qui maintenant qui a percolé même au cœur de l'institution militaire.
Et alors, je le disais, on parlait de la réaction du président Erdogan. Justement, je vous propose de l'écouter. C'était dans la nuit de vendredi.
C'est un mouvement encouragé par une structure parallèle. Ces personnes recevront la punition nécessaire grâce à l'unité et la solidarité du pays et par la réponse que nous allons leur donner en tant que nation. En tant que président et avec le Premier ministre et le gouvernement, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour faire face. Nous ne pouvons pas agir autrement et nous ne leur laisserons pas la reine. Je crois que nous allons mettre fin à cette invasion le plus vite possible. Je veux inviter le peuple à descendre dans les rues et à l'aéroport. Rassemblons-nous dans les parcs, à l'aéroport, en tant que peuple de ce pays. Laissons cette minorité venir avec ses tanks et son artillerie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent au peuple. Je ne céderai pas.
Voilà, une démonstration d'unité, comme l'avait dit le président Erdogan. Ensuite, démonstration dangereuse, on le comprend. Comment est-ce qu'il faut comprendre cet appel? On va vous reprendre tout de suite, Jean-François Pérouse. Mais comment est-ce qu'il faut comprendre cet appel, Emre Demir, du président Erdogan, qui l'a fait via les réseaux sociaux, finalement, via téléphone portable, et non pas par la chaîne officielle qui était occupée, elle?
Certainement, en fait, cet appel qu'il a fait sur FaceTime, sur un iPhone, c'était le point tournant de cette tentative de coup d'État. Après cet appel, il a certainement gagné le coup, mais la guerre. Mais ce qui était ironique, il a fait cet appel sur les réseaux sociaux, dont il a tenté de fermer, d'interdire 2-3 fois en Turquie. Et il a fait cet appel aussi sur CNN Turc, donc une chaîne qui est considérée comme une chaîne d'opposition par le pouvoir turc, qui a été l'objet de menaces ou des attaques en fait avant les élections de novembre. Et d'une certaine manière, c'est les médias libres, les médias d'opposition et les réseaux sociaux qui ont sauvé le pot du régime d'Erdogan. Donc ce côté est ironique en fait.
Presque ironiquement, et peut-être même plus que ça, Dorothée Schmidt parlait de la psychologie du président Erdogan tout à l'heure. Jean-François Pérouse, vous avez écrit une biographie sur le président Erdogan. Dans un article que j'ai pu lire, vous dites que ce n'est pas un idéologue, mais que c'est un intuitif pragmatique. Précisément, là, on le voit en plein pragmatisme ce soir-là.
Ah oui, il a su, parce que à Marmaris, ça aurait pu très mal tourner. Enfin, son arrestation avait été envisagée, son exil en Allemagne aussi. Enfin bon, il y a quelque chose qui a basculé quoi, en sa faveur. Il s'en est saisi. Et c'est vrai que le discours qu'on a entendu là lui fait renouer avec toute sa rhétorique qui puise en fait à toute la rhétorique conservatrice depuis Adnan Menderes, le premier ministre qui a été pendu en 1961, du peuple légitime contre les ennemis de la démocratie quoi. Et là il a retrouvé une énergie et je pense que sa relégitimation est complète. Il l'a très bien senti et les choses ont aussi basculé tant qu'il contrôle non plus tout hein, mais enfin on a bien vu que les nombre de jeunes militaires qui avaient été lancés là n'ont pas fait preuve de beaucoup de zèle non plus. Enfin, la scène à CNN ou à TRT, on voit que là, je veux dire, ils sont pas très très agressifs. Hein. Ils comprennent qu'il y a d'autres forces sociales avec lesquelles il faut composer. Quoi.
Alors ça c'est pour les putschistes, effectivement. Juste relégitimation complète, Dorothée Schmidt, qu'est-ce que vous en pensez? Il est peut-être trop tôt pour le dire ou...
Bon, dans le contexte interne turc, effectivement, Erdogan a gagné une bataille qui est une bataille importante, mais pour moi, ça montre que il fait face à des ennemis qui sont objectifs réels, qui sont le PKK, les cellules de Daesh et aujourd'hui une partie de l'armée, donc c'est quand même pas négligeable. Je pense que la question qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, ici, vu de France, c'est qui est démocrate là-dedans? Entre une armée qui fait des coups d'État militaires et un président de la République qui était déjà sur une pente légèrement dictatoriale et qui maintenant va mener des purges massives, parle de rétablir la peine de mort, qui va demander l'extradition des responsables putschistes qui sont, je vous le rappelle, réfugiés dans un pays de l'Union européenne.
En Grèce, oui.
Quelle va être la réaction de l'Union européenne? Angela Merkel, hier, a condamné l'armée qui a tiré sur la foule. Le problème est la façon dont Erdogan va, pour dire les choses crûment, se venger aujourd'hui des auteurs du putsch. Or, il se trouve qu'auparavant, la situation en Turquie était quand même une situation de fermeture de plus en plus totalitaire, de zéro circulation de l'information, de mise au pied des opposants de plus en plus forte. Donc effectivement, Erdogan peut compter sur, je ne sais pas, un tiers ou 40% de soutien absolu de la société turque, mais ça ne représente pas du tout l'ensemble de la société turque, pas du tout.
Un tiers ou 40%, ce qui était à peu près son score législatif l'année dernière, effectivement, en supposant que ça n'ait pas bougé. Et dernière chose, Jean-François Pérouse, vengeance, disait Dorothée Schmidt, est-ce que vous pensez que c'est ce qui va se passer dans les prochains jours? Ça va être la tactique du président Erdogan désormais?
Oui, le problème, effectivement, c'est que maintenant, aucune opposition politique ne peut s'exprimer, puisque l'opposition politique sera aussitôt criminalisée. Or, effectivement, sur le plan des libertés, qu'il s'agit des journalistes, des universitaires ou autres, là, il y a un certain nombre de procès en cours, et on a un petit peu peur, dorénavant, de la façon dont ces procès vont
cancer, d'autant que là, quasiment un quart des procureurs et des juges viennent d'être démis de leur fonction là, dans la foulée.
Effectivement.
Donc, il va y avoir un renouvellement qui peut laisser craindre effectivement une conduite de ces procès, cette fois-ci, très, très tendancieuse. Ceci dit, on peut aussi, c'est l'hypothèse optimiste, mais qui n'est pas à rejeter, estimer que cette relégitimation va permettre de détendre et quand même le comportement au Parlement des partis d'opposition et même sans le cite pas du parti kurde, l'espèce d'unanimité a créé les conditions peut-être d'une autre façon de négocier avec Recep Tayyip Erdogan dans la sortie du poste couf. En tout cas, j'ose l'espérer, avec des craintes évidentes, puisque en tout cas à l'heure actuelle, dans le triomphalisme aveuglant qui règne, il n'est plus possible d'émettre une seule critique.
Et en tout cas, on va regarder effectivement les mouvements de ces principaux partis. Merci beaucoup Jean-François Pérouse d'avoir été au téléphone avec nous. C'est vrai que les quatre principaux partis, Emre Demir, ont publié un communiqué commun hier après-midi. Même le chef du HDP, on peut dire depuis l'année dernière, opposé ou visé par le gouvernement, a fermement condamné à la télévision le coup d'État à la fin de l'après-midi. Qu'est-ce qui peut se passer du côté de ces partis politiques désormais? Quelle marge de manœuvre ils ont
Comme on a dit au début de l'émission, je pense que la condamnation de cette tentative est unanime, parce que personne, ni les Kurdes, ni les laïcs, ni les nationaux, personne ne voulait un coup d'État, surtout d'une telle manière, ça c'est sûr. Mais le rôle de partis d'opposition était fini le soir du coup d'État. Donc ils ont condamné, et maintenant c'est fini, c'est la parole et appartient maintenant au parti au pouvoir, à Erdogan. Et je pense qu'il y aura une criminalisation des purges massives au sein de la société civile dans des prochains jours, dans des prochaines semaines. Il suffit de voir ce qui s'est passé hier. M. Pérouse a dit un quart, mais précisément 32% de la justice turque entière, la magistrature de la totalité, a été écartée hier. Et l'arithmétique de la haute justice, la cour de cassation, la cour d'appel et le cour constitutionnel surtout, a totalement changé. Donc maintenant, il a la voie libre. On ne verra plus, par exemple, des décisions qui sont un peu exceptionnelles, la libération des journalistes comme Can Dündar, etc. On ne le verra plus. La justice appartient à Erdogan, l'armée est détruite. Donc on assiste quand même à l'effondrement des institutions de l'appareil étatique. La police est devenue une deuxième armée qui est sous le contrôle d'Erdogan. Les mosquées sont devenues en fait l'outil politique le plus important d'Erdogan. Donc on assiste vraiment à une Turquie, on observe une Turquie totalement différente il y a trois jours. Et donc parler d'une cohésion sociale ou d'un rapprochement avec les partis d'opposition, je vois pas trop en fait. Et les partis d'opposition aussi sont prochainement seront ciblés par le pouvoir. Déjà, ça a commencé sur les réseaux sociaux, on accuse les autres partis ou les Kémalistes, etc., en tant que des gens pro-coup.
Oui. Et précisément, Dorothée Schmidt, c'est vrai qu'on a vu également, parmi les arrestations de personnel judiciaire, un des juges de la Cour constitutionnelle, le vice-président, celui-là même, ou cette Cour même qui avait fait libérer les journalistes, qui avait ordonné la libération des journalistes Can Dündar, les journalistes de Cumhuriyet au début de l'année. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre maintenant, dans les prochains jours, étant donné que la nuit dernière a été assez calme, finalement, c'était pas l'émeute, on peut dire, dans le pays.
Moi, je peux vous dire les questions que je me pose en tant que politologue, en comparatif sur d'autres contextes de transition démocratique réussie ou non, parce que la Turquie était dans une période de transition démocratique. N'oublions pas qu'on sort d'une période antérieure de dictature militaire également. Je m'interroge sur la montée de la violence à la fois sociale, on en a beaucoup parlé, avec Tayyip Erdogan qui appelle les citoyens à aller dans la rue pour défendre le régime dans une espèce de logique d'autodéfense et qui maintenant leur donne l'autorisation de lyncher eux-mêmes les auteurs du coup d'État. Donc beaucoup de violence dans la rue, ce qui est quand même un trait de régime fasciste, dans la définition classique politique du fascisme. Et de l'autre côté, la violence d'État. Alors la violence d'État, elle passe pas forcément par des mécanismes légalement institutionnels tels que nous on en rêverait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on commence par nettoyer les institutions pour être sûr que ça marche et ensuite par éventuellement changer la législation pour pouvoir punir les auteurs d'un coup d'État de façon rétroactive, parce que même si maintenant on rétablissait la peine de mort en Turquie, est-ce qu'on peut juger les gens pour quelque chose qui s'est produit avant le rétablissement de la peine de mort? Ça c'est une autre question très intéressante du point de vue juridique pour les juristes européens à la fin. Donc d'un côté, entre cette violence sociale et de l'autre côté, entre la violence d'État, les questions qui m'importent maintenant, c'est comment vont être punis les auteurs du coup d'État? Est-ce que ils vont être éliminés de façon légale ou extrajudiciaire? Quel va être le niveau de la torture employée vis-à-vis des responsables du coup d'État? Et quel va être le niveau de verrouillage de la société civile, bien au-delà des universitaires et des journalistes dont on a parlé? Parce qu'aujourd'hui, y compris le simple citoyen en Turquie, quand il veut manifester une opinion dissidente d'Erdogan, risque un procès. Si on fait un tweet de travers, mais si aussi on distribue, si on a 15 ans et qu'on distribue un tract où on dit quelque chose qui contrarie le chef de l'État, eh bien, on peut se retrouver en prison en Turquie. Donc, c'est ça, cette espèce de pente d'ultra-personnalisation. Alors, dire que les partis politiques vont négocier avec Erdogan alors que lui apparaît comme maintenant l'homme fort, légitimé, etc., ça me semble être un peu une vue de l'esprit, étant donné la façon dont les élections se sont passées l'année dernière, entre le mois de juin et le mois de novembre, on a refait les élections pour être sûr que Tayyip Erdogan ait une majorité. Et entre ces deux moments, les partis politiques ont été incapables de s'entendre sur une alternative, alors qu'ils étaient en position de proposer une alternative politique.
Et de ce point de vue-là, alors, dernière chose, il nous reste un peu moins de 2 minutes, mais qu'est-ce qu'on peut attendre des diplomaties occidentales ou du monde entier, qu'on a vu, pour certaines, un peu tarder, disons, à apporter leur soutien sans faille à la démocratie turque, en tout cas au gouvernement turc actuel, et aujourd'hui qu'on voit assez inquiète finalement. Il y a eu un avertissement de François Hollande sur la qualité des purges qui allaient se mener. Aujourd'hui, on voit que François Ayrault vient de dire qu'il ne donnerait pas de chèque en blanc à Recep Tayyip Erdogan. Est-ce que vous pensez, Emre Demir, qu'il peut y avoir assez de pression de la part de ces diplomaties occidentales pour atténuer cette répression ou cette vengeance?
Actuellement, la fermeture de la base aérienne d'Incirlik, ces purges qui se sont accélérées, me donne l'impression qu'Erdogan opte c'est possible, mais un changement d'alliance, peut-être une idée d'éloigner de l'alliance occidentale pour travailler avec d'autres partenaires, etc. Donc ça, c'est possible. Et il y a aussi ce facteur, le renforcement d'Erdogan dans sa position, inquiète aussi le capital européen. On a vu jusqu'à 2h du matin, il n'y a pas eu une réaction très dur contre la tentative du coup d'État. Donc ça montre aussi à tel niveau qu'il y a une manque de confiance entre...
Un certain attentisme, voilà. Oui. Et Dorothée Schmidt, alors peut-être en un mot, le partenaire le plus important là-dessus, c'est les États-Unis. On a vu qu'il y a déjà une indignation de la part des États-Unis d'être accusés. On aura le temps d'en reparler plus tard. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus tous les deux. Dorothée Schmidt, directrice du programme Turquie contemporaine à l'IFRI, et Emre Demir, rédacteur en chef de Zaman France. Merci. On va passer à la deuxième partie.
You know different types of love. Different types of love. Different types of love. Are possible.
Une semaine dans le monde, l'émission continue jusqu'à 14h. Alors vous le savez, la France a de nouveau été frappée par une attaque terroriste jeudi soir à Nice, dont le bilan est particulièrement lourd avec plus de 80 morts. Véritable série noire depuis les attentats perpétrés par Mohamed Merah en 2012, ceux de Charlie en janvier 2015 et ceux de Paris le 13 novembre dernier. Vendredi, dans la nuit, le chef de l'État l'a rappelé, il faut tout faire pour lutter contre le fléau du terrorisme. Mais comment mener cette guerre qui ne ressemble à aucune autre? Une ligne de front mouvante, des attaques qui peuvent survenir n'importe où et n'importe quand, des combattants isolés qui ne respectent aucune règle et agissent à visage couvert. En somme, des pratiques en dehors de tout cadre qui bouscule notre système de défense. Comment repenser notre stratégie militaire contre le terrorisme? Nous en discutons avec Michel Goya. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes colonel, ancien officier des troupes de marine. Vous enseignez l'histoire militaire de la guerre à Sciences Po. Je cite deux de vos ouvrages, Res Militaris, de l'emploi des forces armées au XXIe siècle. C'est paru chez Economica en 2010. Et puis, La chair et l'acier, l'armée française et l'invention de la guerre moderne, 1914-1918. C'était chez Talendier en 2004. Et puis, on peut vous lire sur votre blog La Voix de l'épée, consacrée aux questions militaires. À vos côtés, Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vous êtes auteur du Que sais-je sur la guerre, paru aux Presses universitaires de France, dernière édition, 2014. Alors, Michel Goya, qu'est-ce qu'on peut simplement dire déjà du mode opératoire qui a été utilisé lors de l'attentat à Nice, l'utilisation d'un camion qui n'est pas a priori une arme faite pour ôter la vie? Est-ce que dans l'utilisation du camion, précisément, on a une action terroriste qui est poussé à son paroxysme sur le mode opératoire?
L'action terroriste, comme son nom l'indique, est destinée à frapper les esprits, à frapper éventuellement les corps, bien sûr, mais aussi à frapper massivement les esprits. Et pour cela, le mode d'action fait partie de la surprise. Et donc, c'est une manière à la fois, je dirais, tactique, c'est-à-dire on utilise des moyens qui sont différents pour déjouer éventuellement les parades qui ont pu être imaginées pour les autres systèmes. Et puis, en même temps, ça rajoute effectivement à la sidération, ça rajoute au choc psychologique. Effectivement, l'emploi d'un camion, alors c'est pas complètement une surprise. Hein. Dans sa proclamation, il y a à peu près un an, al-Baghdadi demandait à ce qu'on attaque de toutes les manières possibles. Et il parlait des voitures béliers qui ont déjà été utilisées par ailleurs. Mais là, on est effectivement sur quelque chose qui est particulièrement monstrueux, qui renvoie à des films d'horreur. Enfin, c'est le choix, il est à la fois tactique, mais c'est aussi peut-être un choix par défaut, hein, c'est ce que dirait l'enquête. Et c'est simplement parce que cet individu est conducteur de poids lourd et que c'est ce qu'il a trouvé comme instrument de mort, comme malheureusement particulièrement efficace en l'occurrence.
On peut peut-être supposer ici de la difficulté croissante à se fournir en armes.
Oui et non, c'est-à-dire que on a bien vu avec les attaques du 13 novembre ou même avec les attaques des frères Kouachi ou Hamidi Koulibaly, qu'il est relativement facile malgré tout, en se connectant sur toute cette économie grise, de se connecter aussi sur les réseaux, sur les trafics d'armement. C'est des problèmes de notre époque mondialisée, c'est que les groupuscules, les groupes armés, même les individus eux-mêmes ont beaucoup plus de capacités à leur disposition qu'ils n'en avaient, par exemple, à l'époque d'Action Directe, où ils ont des possibilités de formation, d'auto-formation, de connexion par Internet. Ils peuvent, encore une fois, ils peuvent se brancher sur des réseaux d'armes légères qui n'ont jamais été aussi importants que... depuis la fin du pacte de Varsovie, l'ouverture des arsenaux, on a donc la capacité relativement facilement de constituer des cellules de combat internes particulièrement meurtrières.
Bruno Tertrais, sur ce que disait Michel Goya, le terrorisme s'est frappé presque masque plus les esprits que les corps encore?
Oui, c'est vrai, ça paraît un petit peu difficile à entendre aujourd'hui après le bilan effroyable de l'attentat de Nice. Mais c'est vrai que ce qui distingue le terrorisme d'autres formes d'action violente, même individuelles, c'est effectivement sa finalité d'impressionner, de terroriser, de diviser. Dès lors que l'on emploie le mot de terrorisme, c'est qu'on suppose déjà qu'il y a effectivement un impact recherché qui va au-delà de la seule vengeance personnelle, etc. Juste un mot à propos du camion. C'est une arme, c'est ce qu'on appelle une arme par destination en droit. Ça n'est pas une arme, mais c'est une arme. Ça devient une arme dès lors que c'est utilisé pour délibérément tuer. C'est exactement comme ce qui s'était passé pour le 11 septembre avec un avion civil. Un avion civil n'est pas une arme, ça devient une arme par destination dès lors que vous cherchez à le faire s'effondrer sur une tour ou sur une centrale nucléaire ou ailleurs.
Alors, la France n'est pas le seul pays ciblé par les attaques terroristes. Néanmoins, il y en a tout de même beaucoup qui se sont déroulées sur son sol de ces dernières années. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que la France est une cible privilégiée du terrorisme ? Michel Goya.
Oui, d'évidence. La France, pour ce qu'elle est, sa société, qui est aux antipodes du modèle prôné par ces gens-là, par l'État islamique, ou autre chose, il ne faut pas oublier Al-Qaïda non plus dans toute cette affaire. C'est pour ce qu'elle a fait, pour son histoire, notamment son histoire au Proche-Orient, c'est quelque chose qui marque les esprits, ou que d'une manière générale dans le monde arabe, arabo-musulman, et pour ce qu'elle fait aussi, c'est-à-dire notamment son action, que ce soit au Sahel, mais aussi son action, sa participation à la coalition en Irak. Voilà, il faut noter simplement qu'elle est devenue une cible depuis 2014, hein, en réalité. L'État islamique existe depuis 2003 sous un autre nom, sous ce nom depuis 2006. Et jusqu'à cette époque, alors il faisait des ravages en Irak, mais jusqu'à une époque récente, il s'attaquait peu aux nations extérieures, aux nations coalisées, notamment sur le territoire européen. Donc là, maintenant, la grande différence, c'est qu'effectivement, il mène des actions violentes, des actions fortes, aussi sur le territoire de ceux qui participent à la coalition.
François Hollande l'a dit vendredi dans la nuit, parce que les droits de l'homme sont niés par les fanatiques, et c'est pour cette raison que la France est forcément leur cible. Bruno Dertrais.
Oui, et c'est là que je compléterai un petit peu ce que disait Michel Goya, parce que je crois qu'il est important de comprendre que la France, à mon sens, est davantage visée pour ce qu'elle est, plutôt que parce qu'elle participe à une coalition, je ne sais où, une coalition par ailleurs utile. Hein. Je ne crois pas que...
Vous, ce ne sont pas des mesures de représailles, quelque part, des conséquences de l'engagement de la France à l'extérieur.
Il peut arriver, effectivement, que ce soit des mesures de représailles. Il peut arriver tout simplement que des groupes ou des individus tirent comme argument l'intervention militaire française, ici ou ailleurs, parce que c'est une justification qui est assez porteuse politiquement. Si vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est... Et comme le disent la plupart des spécialistes du sujet, même si la France n'intervenait nulle part, elle serait probablement tout autant une cible. Je n'ai pas connaissance d'interventions tunisiennes ou bangladaises, par exemple, contre l'État islamique. Mais la France est de toute façon visée pour ce qu'elle est, pour au moins deux raisons. D'abord, le fait qu'elle porte la laïcité en étendard, ça fait partie de son identité politique et culturelle, à mon avis à juste titre, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui est mal perçu à l'évidence par des entités telles que l'État islamique. Et deuxièmement, parce que la France est connue pour avoir très probablement la première communauté musulmane d'Europe. Or, l'un des objectifs avérés de l'État islamique, c'est de diviser, de provoquer, de susciter la guerre civile et même, si possible, d'encourager, c'est le discours de l'État islamique, les musulmans, je cite, à rentrer chez eux, à revenir au Moyen-Orient. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la France est d'abord et avant tout visée pour ce qu'elle est, avant de l'être pour ce qu'elle fait à l'extérieur.
Sur cette question précisément de la guerre civile, l'objectif du terrorisme en France, c'est de créer des fractures, des tensions entre la population, entre musulmans notamment et le reste des Français.
Oui, bon, d'évidence, bien sûr, ça fait partie des objectifs, comme soulignait Bruno Tertrais. Il y a une communauté forte musulmane, c'est pas un hasard s'il y a des attaques qui sont perpétrées également ici. On pourra souligner que, notamment le 13 novembre, ces attaques, c'était, d'ailleurs même le cas à Nice, sont aussi aveugles, hein. Je pense qu'un certain nombre de Français musulmans ont été frappés également. Donc, de ce point de vue, c'est pas forcément de point de vue stratégique, c'est peut-être pas forcément valable. Autant pendant les attentats de janvier, lorsqu'il y avait une attaque sur Charlie Hebdo, donc ou même sur l'hypercachère, c'était des cibles bien définies, ce qui n'était pas d'ailleurs connecté avec forcément avec l'intervention en Irak, hein, c'était les caricatures de Mahomet, c'était autre chose, c'était ciblé et donc ça pouvait effectivement contribuer plus à dissocier une partie de la population qui pouvait éventuellement ne pas se sentir concernée directement. Là, qu'à partir du moment où on frappe massivement, on frappe tout le monde, musulmans comme les autres, finalement, cette idée de division, elle perd. Cet effet recherché, en tout cas, perd de sa force. Maintenant, oui, bien sûr que ça fait partie de tout ce qui peut affaiblir la France, tout ce qui peut la frapper de sidération, tout ce qui peut la diviser, tout ça fait partie des objectifs stratégiques.
Et je comprends très bien par ailleurs qu'on puisse se poser la question de savoir si ces interventions militaires en Libye, au Mali, en Syrie, en Irak contribuent d'une certaine manière à augmenter le risque de terrorisme. C'est une question parfaitement légitime. Le problème, c'est que si on ne fait rien, ça pourra être encore pire. Et que si on fait, ça n'est pas forcément ça, encore une fois, la motivation première des groupes terroristes. Je crois que la solution, et là on va y venir, je prends dans le débat, mais je pense que Michel Goya et moi serons d'accord probablement pour dire que il n'y a pas de solution militaire au terrorisme, ça tout le monde est d'accord. La question est de savoir jusqu'où il faut le placer le curseur entre mesures d'ordre sociétal, juridique, renseignement, quelle est la place exacte de l'action militaire et notamment, parce que ça c'est vraiment un débat important, la place de l'action militaire sur le territoire national avec le fameux dispositif Sentinelle qui est de plus en plus critiqué.
Et Sentinelle, donc, qui est une opération militaire, hein, au même titre que des opérations qui sont menées à l'extérieur du territoire français. 10 000 militaires mobilisés, en plus des gendarmes et des policiers. Est-ce qu'on a encore des marges de manœuvre? Est-ce que c'était les dernières qui ont été annoncées là par François Hollande, Michel Goya?
D'un point de vue militaire, on a désormais assez peu de marge de manœuvre. Et bon, c'est pas le sujet, mais c'est quand même aussi une des conséquences de 25 ans de politique en matière de sécurité. D'un mot, on a divisé par deux notre effort en termes de défense, mais en termes de sécurité, de tout ce qui concerne les ministères régaliens. Bon. Et donc, on en paye aussi un petit peu les conséquences maintenant. D'un point de vue militaire, si on fait le total de toutes les forces qui sont engagées, on va dire, dans la guerre contre les organisations djihadistes, que ce soit au Sahel avec l'opération Barkhane, que ce soit en Irak avec l'opération Chamal ou les soldats qui sont engagés dans l'opération Sentinelle, si on fait le total de tout ça, on aboutit à ce qui était prévu dans le livre blanc de la défense de 2013 comme engagement majeur. C'est-à-dire, voilà, c'est le maximum de ce qu'on doit être capable de faire, et c'est sous-entendu dans un conflit d'intensité majeure. Bon, là, on y est. Mais on y est, pour ma part, je pense qu'on est de mauvaise manière, on l'est de manière dispersée, on a plutôt empilé des réactions que conduit une véritable stratégie. Et très clairement, Sentinelle, c'est une opération de gesticulation. C'est une sorte de pseudo-opération qui est destinée à montrer... C'est très facile d'engager la force armée en France. Hein. Il n'y a pas de débat parlementaire préalable. Bon. Et donc, c'est une manière de montrer que l'on fait quelque chose, qu'on fait... Mais dans la réalité, ça n'a relativement peu d'effet. Ça n'a pas empêché l'attaque du 13 novembre, ça n'a pas empêché l'attaque de Nice. Et ça a des effets très négatifs, il faut bien le comprendre aussi, sur les forces armées elles-mêmes.
Je dirais quand même, là je vais prendre le contre-pied de ce que je disais moi-même tout à l'heure. Bien sûr, c'est critiquable. Par ailleurs, je ne suis pas du tout sûr que si on avait 20 000 hommes au lieu de 10 000 mobilisés pour Sentinelle, ça changeait grand-chose. Hein. Donc c'est pas forcément... Michel Goya a raison de souligner la question de la déflation progressive des effectifs, mais si on avait eu deux fois plus de personnes qui font de la sécurité en général fixe devant des bâtiments ou mobiles dans les rues pour Sentinelle, je ne suis pas sûr qu'on aurait évité beaucoup plus d'attentats. Par ailleurs, quand même, et là je prends le contre-pied de ce que je disais tout à l'heure, il y a un autre objectif dans une opération comme Sentinelle, c'est de rassurer la population. S'il n'y avait pas un seul soldat dans les rues en France aujourd'hui, pas un seul soldat devant les synagogues, les hôpitaux, les écoles, etc., est-ce que franchement la population française ne se sentirait pas encore plus mal? C'est une vraie question, je crois. Donc je suis le premier à critiquer cette opération, mais je crois qu'il faut aussi voir, de la même manière que sur un tout autre sujet, quand l'OTAN déploie des forces à ses frontières extérieures, comme elle l'a décidé il y a une semaine, c'est tout autant pour dissuader la Russie que pour rassurer les pays membres. Hein. Rassurer, ça fait partie du jeu.
Le général Vincent Desportes écrivait dans le dernier numéro de la revue Le Débat « Soyons modestes, n'imaginons pas la guerre de demain, nous devrons juste nous adapter à celle que l'ennemi nous imposera ». Qu'en pensez-vous, Michel Goya ?
Oui, il vaut mieux commencer par gagner les guerres d'aujourd'hui que préparer, anticiper celles de demain. Il entendait certainement par là que notre outil n'était pas forcément conçu, adapté, le mieux adapté pour faire face aux défis actuels. C'est-à-dire concrètement, si on fait le bilan en réalité, depuis les débuts des années 60, si on considère que la guerre, c'est un affrontement politique violent, la France a fait 19 guerres. Et ces 19 guerres, elles ont principalement opposé la France à des groupes armés, comme l'État islamique. Si on fait le total des 400 soldats français qui sont morts pour la France, c'est-à-dire qui sont morts au combat depuis cette époque, bah, tous ont été tués par des groupes armés. Voilà, aucun par une armée régulière. Donc la normalité, c'est quand même ça. Et on constate que notre outil, il présente, qui est très sophistiqué par ailleurs, présente un certain nombre de faiblesses. Alors, très concrètement, la lutte contre Daesh, que fait la France dans sa guerre contre Daesh? Je peux vous le dire, elle envoie en moyenne une bombe tous les jours, chaque jour, sur un territoire grand comme la Grande-Bretagne. Voilà l'action militaire de la France contre Daesh. Voilà concrètement ce que nous faisons. Et je pense que, pour ma part, ce n'est pas la hauteur des enjeux.
Bruno Tertrais, on en est où de la réflexion stratégique militaire face au terrorisme?
Oui, là je voudrais là aussi compléter un petit peu ce que disait Michel Goya. D'abord, il n'y a pas que les bombes, il n'y a pas que l'action militaire visible. Il y a aussi des choses qui ne se voient pas, qui relèvent de l'action militaire, qui sont que, par exemple la formation des armées sur place. La formation de l'armée irakienne par les États-Unis et la Grande-Bretagne est un désastre quand même. Il faut quand même dire qu'ils y sont depuis 2003. Hein, c'est quand même un désastre. Le désastre est collectif, hein, partagé aussi par d'abord par les Irakiens. Bref, si la France contribue à la formation et au renforcement de ses capacités locale. Si la France, par ailleurs, c'est une autre action militaire, aide les Kurdes, qui sont une des principales forces opérationnelles de la région, à lutter contre Daesh, ça sert aussi. C'est de l'action militaire moins visible. Tu sais. Donc là, je crois que ça serait peut-être un petit peu caricaturé l'action militaire de la France dans la région, de la réduire à une bombe par jour, même si Michel Goya a raison de dire que c'est pas très impressionnant et c'est pas nous qui allons faire la différence. Rappelons quand même que sur le terrain, il y a des progrès dans la lutte contre Daesh. Daesh ne pousse plus, Daesh ne s'étend plus, et c'est très important non seulement sur le plan des moyens qu'a Daesh, des moyens pétroliers, des ressources d'extorsion de fonds, etc., mais aussi en termes de récit que Daesh peut projeter à l'extérieur et dans le monde entier. Pourquoi est-ce que Daesh est si attractif? Parce que elle s'est installée, elle a proclamé le califat, aboli les frontières. Et c'est ce qu'on avait jamais fait à Al-Qaïda. Hein. C'est vraiment une rupture majeure idéologique par rapport à Al-Qaïda. Et le fait de présenter que Daesh ne soit plus aujourd'hui en Syrie, en Irak, comme une organisation en permanence victorieuse, peut contribuer à diminuer son attractivité. Ce sont maintenant, je ne vais pas dire sont des losers, ça serait un peu dur à entendre pour tous les victimes d'attentats. Mais en tout cas, ils ne sont plus sur la pente ascendante sur laquelle ils étaient il y a un ou deux ans. Donc l'action militaire, les bombes, ça sert aussi à ça.
Mais justement, au-delà du terrain spécifique hein, en Irak et en Syrie, là où est implanté Daesh, est-ce que vous avez l'impression que l'armée française a pris en compte, intégré dans sa stratégie militaire globale, la dimension terroriste, à savoir justement le fait de ne pas avoir en face de soi une armée régulière, des soldats, des drapeaux, des pratiques qui contreviennent totalement aux règles habituelles qui ont été fixées tout au long, depuis 1945 en tout cas. Est-ce que ça a été intégré dans notre stratégie?
Pour moi, ça l'a été, parce que ça a commencé quand même en 1991. Avec l'engagement massif de la France dans les Balkans, dans l'ex-Yougoslavie. Et à cette époque-là, on est déjà face à des gens qui ne respectent pas les règles du jeu. Ça a été difficile, mais je crois que, là encore, Michel Goya en parlera peut-être mieux que moi, puisque là, il a vécu ça d'extrêmement près. Mais très franchement, moi, tous les militaires que je croise depuis 25 ans, du Troufion jusqu'au chef d'état-major des armées, me donnent le sentiment que maintenant, c'est dans leur culture propre de dire que, l'adversaire, c'est avant tout un adversaire non étatique. C'est quand même beaucoup plus compliqué que la guerre traditionnelle. Mais enfin, si la question c'est est-ce que c'est intégré dans les mentalités? Oui. Est-ce que c'est totalement traduit en mode opératoire? Peut-être moins.
Michel Goya, même question.
Je rappelle que depuis 1945, nous avons affronté quelque chose qui s'appelait le Viet Minh, qui est un parti politique, le Front de Libération Nationale en Algérie, qui était aussi un parti politique, une organisation politique, armée, non étatique, et que depuis, comme je disais tout à l'heure, en réalité, effectivement, la normalité, c'est ça, c'est lutter contre les organisations armées, beaucoup en Afrique, mais aussi dans le Grand Moyen-Orient, que ces organisations, en revanche, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, elles sont devenues beaucoup plus forte, résiliente qu'elle ne l'était auparavant, par ailleurs, et c'est aussi un des aspects de la mondialisation. Quand on prend toutes ces organisations armées dans le grand Moyen-Orient, on va dire, depuis le Hezbollah au Liban jusqu'au réseau Haqqani en Afghanistan, en passant par l'armée du Mahdi contre les Américains en Irak, etc., combien de ces organisations ont été détruites depuis le début du XXe siècle ? Eh bien, le chiffre est simple, zéro. Aucune. Aucune. Malgré un déploiement de forces absolument considérable en Afghanistan, en Irak, par Israël de son côté, aucune. C'est-à-dire qu'on est face à des organisations qui sont particulièrement résistantes, particulièrement fortes. L'État islamique a failli, c'est un des très rares cas d'ailleurs, paradoxalement, qui a failli être détruit quand même en 2007-2008, qui a failli disparaître et qui renaît de ses cendres essentiellement par la faute, pour des raisons politiques internes. Et par le gouvernement de Bagdad a une grande responsabilité là-dedans.
Michel Gouya, pardon, est-ce que ça veut dire qu'il faut cesser d'avoir comme objectif de détruire purement et simplement ces organisations, mais plutôt d'avoir une stratégie de containment quelque part ?
Si vous voulez, le problème de la guerre, c'est que la guerre, généralement, ça se termine par une négociation, très rarement par une destruction. Bon. Mais il y a des cas où cela s'impose, ou parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, parce qu'il n'y a pas de possibilité de dialogue, de négociation, tout simplement. C'est le cas de l'Allemagne nazie, après tout. On a fait la guerre jusqu'à la capitulation sans condition. Donc là, on est dans des situations où, effectivement, il y a parfois des possibilités de négociation avec ces organisations armées. Parfois non, là, ce n'est pas le cas. Mais la destruction n'est pas forcément une destruction simplement physique. C'est-à-dire que l'État islamique ne suffira pas, certainement pas, même de planter des drapeaux à Fallujah, Mossoul, Raqqa.
On peut imaginer que les attentats ne vont pas cesser, quand bien même on reprendrait Raqqa.
L'État islamique n'est pas né de rien. C'est-à-dire qu'il y a aussi des raisons sociales, des raisons politiques, des raisons économiques, locales en particulier, qui ont fait que cet État a pu, cette organisation a pu s'étendre. Reprendre le terrain, c'est bien, mais ça ne résout pas les problèmes politiques sous-jacents.
Bruno Tertrais.
Oui, je crois qu'il ne s'agit pas de détruire ces organisations, mais simplement de les réduire de telle sorte qu'ils ne présente plus une menace majeure permanente. Donc, Michel Goya a raison, mais c'est presque de la rhétorique pour moi. Bien sûr, on les détruit jamais complètement. D'abord parce qu'elles peuvent devenir quelque chose d'autre, comme il y a une partie des gens d'Al-Qaïda qui ont rejoint Al-Nusra, l'État islamique, etc. Donc, c'est plutôt de réduire leur capacité de nuisance. Alors, le mot détruire, d'abord, il est important, effectivement. On n'est pas en face d'un adversaire, on est en face d'un ennemi. Et ça a été peut-être, là encore, une rupture dans la stratégie militaire française, en tout cas dans la stratégie tout court, d'ailleurs. Au moment où au Mali, on est face à un adversaire, quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis longtemps, quelque chose qu'on doit détruire et non plus simplement neutraliser, etc., calmer. Bon, alors, le problème quand on utilise et quand les autorités françaises ont utilisé à plusieurs reprises, y compris le président de la République, le mot détruire, ça peut donner effectivement le sentiment qu'on va les annihiler complètement. Mais il y a une différence entre détruire la capacité de nuisance et détruire le groupe lui-même, l'organisation, qui elle, de toute façon, va se disperser, s'éparpiller, ce qui pose d'autres problèmes. Le problème du terrorisme, c'est que parfois vous allez frapper et puis tout va s'éparpiller et ça va, 5 ans plus tard, les gens vont migrer, enfin migrer pas au sens des migrants, mais vont se déplacer. On a vu par exemple avec l'Afghanistan, tous ceux qui sont venus, les vétérans de l'Afghanistan dans divers pays, en Algérie par exemple, etc. Bon, donc voilà, sur ce mot détruire, c'est important parce que c'est un objectif clair pour les militaires, mais on ne détruit pas les groupes en tant que quantité politique elle-même.
C'est d'ailleurs une des caractéristiques de ces interventions, elles demandent énormément de temps.
C'est pas le cas au Mali par exemple.
Non, pas au Mali, effectivement, mais alors l'opération, pour reprendre la question, l'opération militaire peut être effectivement courte et rapide, et néanmoins, on a ensuite des terrains qui s'enlisent quelque peu. On pense à la Libye, par exemple, et puis même si on reprend l'Afghanistan ou l'Irak, est-ce que, pour vous, ce n'est pas la fin des interventions courtes et rapides ?
Mais les interventions courtes et rapides, ça n'existe qu'en tant que mythe, ou presque en tant que fantasme. Il y a, y compris parfois chez les militaires, d'ailleurs. Si vous voulez, l'idée de dire un objectif clair, un effort décisif, hop, je rentre, je bombarde, je nettoie et je m'en vais, ça n'est pas la norme, ça n'a jamais été. Il n'y a que dans un cas très précis qui était important pour les Américains d'ailleurs parce que c'était la revanche du Vietnam où au lieu de l'enlisement, c'était la guerre du Golfe en 1991, un objectif précis, on met les moyens et hop, on s'en va. D'ailleurs, certains ont reproché après aux Américains de ne pas être allés jusqu'à Bagdad, etc. Mais en général, on sait très bien que c'est pas la norme. Le problème, pour moi, il est plutôt politique. Le problème, c'est qu'on va donner le sentiment, d'abord, à l'élite politique, au Parlement et aux opinions qu'une fois qu'on a fait le plus gros, le travail est terminé. Et c'est beaucoup plus difficile de mobiliser un gouvernement et ses moyens d'action sur la stabilisation que sur la destruction, le remplacement d'un régime, le nettoyage d'une région. Regardez ce qui s'est passé en Libye. D'abord, soyons clairs, je pense pas du tout que ce soit la France et la Grande-Bretagne qui ont cassé le pays. Le pays était cassé en mars 2011, c'était fini. Deuxièmement, après la fin de l'opération, il y a eu des propositions de collaboration avec la Libye pour rester, pour aider. Là. Bon, déjà, les Libyens n'en voulaient pas beaucoup. Hein, c'est une des raisons où on dit la France, elle s'est retirée du pays. Non, d'abord, les Libyens n'en voulaient pas. Mais surtout, et pour en revenir à votre sujet, surtout, le problème, c'est que ce sera toujours beaucoup plus difficile de mobiliser l'ensemble des forces de nos pays pour une action de stabilisation de longue durée que, par ailleurs, on fait pas toujours très bien. Regardez le fric et malheureusement les morts de l'Afghanistan. Hein. Et donc, je crois que malheureusement, nous devons, pas seulement les Français, mais les Occidentaux en général, être plutôt modestes. Et là, je rejoins ce que disait le général Desportes à propos de l'imagination stratégique. Il faut être modeste en imagination parce qu'on sera toujours surpris. Il va toujours se passer des choses qu'on n'avait pas prévues. Je crois qu'il faut aussi être modeste parfois dans les buts de nos interventions parce que nos démocraties n'ont pas les moyens humains, économiques, militaires, psychologiques de mener de telles opérations qui vont durer des décennies avec des résultats très incertains.
Bruno Terrez, je crois que c'est Pierre Asner que vous citez dans votre livre qui dit en gros la guerre de demain ce sera le drone contre le kamikaze. Michel Goya.
Oui, si vous voulez, dans les années 90, on parlait de un concept qui s'appelait la révolution des affaires militaires. Donc voilà, c'est un certain nombre de penseurs américains d'abord, mais pas seulement, qui imaginaient que les nouvelles technologies, la numérisation, les technologies d'information, on pouvait faire une guerre nouvelle de très haute technologie. Bon, c'est apparu dans des années 80, ça a commencé.
Puis, vous voulez dire que les Occidentaux ont eu peut-être un peu l'illusion qu'ils allaient pouvoir faire une guerre de loin, très technologisée, voire une cyberguerre.
Enfin, pas forcément cyberguerre, mais d'une guerre à distance précise, avec une supériorité d'information, etc. Simultanément, d'ailleurs, un des premiers exemples de ce nouveau type de guerre, c'était l'opération Paix en Galilée en 1982, l'armée israélienne arrivant au Liban, écrasant complètement l'armée syrienne, l'armée de l'OLP. Bon. Et à la même époque, on voit apparaître les premiers kamikazes. Et quelques mois plus tard, vous avez un attentat contre des Américains et des Français qui font presque 300 morts, 300 soldats qui sont tués en l'espace de quelques minutes. Et quelques mois plus tard, vous avez un contingent américain, français, britannique, italien qui quitte le Liban. C'est-à-dire que l'on voit apparaître à ce moment-là aussi une autre manière de faire la guerre par ces organisations qui c'est une sorte d'autre révolution dans les affaires militaires d'une certaine façon et qui ont finalement finissent par tenir en échec les grandes armées régulières. Le Hezbollah a tenu en échec, a contribué au départ d'Israël du Liban, a vaincu l'armée israélienne en 2006. Le Hamas résiste également militairement, résiste beaucoup plus que n'ont pu le faire les armées arabes régulières précédemment. Donc il y a aussi ces deux manières effectivement de faire la guerre quasiment opposée, mais tout aussi puissante.
Bruno Tertrais.
Puisque vous citiez Pierre Asner, je vais utiliser la dialectique qui lui est chère. Le problème auquel on fait face aujourd'hui, en gros, c'est que les acteurs non étatiques qui ont toujours existé, on s'est toujours battu, Michel Goya l'a rappelé, français comme beaucoup d'autres États dans le monde, contre des acteurs non étatiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont armés de manière qui leur donne quasiment un statut de quasi-État. Donc les groupes non étatiques, les groupes terroristes deviennent des quasi-États. Le Hezbollah a une armée tout à fait qui ne déparerait pas dans certains pays, alors que parallèlement, d'autres États, et là on n'a pas beaucoup parlé, mais ça fait partie aussi du paysage peut-être de la guerre future, d'autres grands États comme la Russie et la Chine, eux commencent à se comporter pour paralyser la supériorité technologique occidentale, qui n'est d'ailleurs pas toujours assurée, commencent aussi à se comporter comme des non-États, comme des quasi-États. C'est-à-dire que quand vous voyez la manière dont la Russie manipule un certain nombre de groupes paramilitaires qui ne sont pas directement affilié à Moscou, on est là dans une stratégie qui est beaucoup plus complexe que, là encore, l'exemple typique qu'on ne retrouvera probablement plus, où, alors là, États-Unis, Koweït, Irak, manœuvre aéroterrestre, c'est lourd, c'est compliqué, mais franchement, ça ne pose pas de problème majeur du point de vue de la stratégie militaire. Aujourd'hui, que ce soit contre le Hezbollah, contre Daesh, contre la Russie ou contre la Chine, un pays occidental fait face à des défis, à mon avis, tout à fait inédits.
Merci. merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Je le rappelle, Michel Goya, ancien officier des troupes de marine, enseignant à Sciences Po. Vous êtes l'auteur de Res Militaris, de l'emploi des forces armées au XXIe siècle, paru chez Economica, et également auteur du blog La Voix de l'Épée. Et vous, Bruno Tertrais, merci, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS, et auteur également du Que sais-je, La Guerre, paru au PUF en 2014.
On arrive à la fin de cette émission et comme chaque dimanche de l'été, c'est l'heure de la chronique d'Hubert Védrine. Une réflexion sur les pièges de certaines grandes idées contemporaines. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Bonjour Hubert.
Bonjour. Nouvel exemple dans cette série estivale d'une idée qui finit par contredire ses bonnes intentions et se manger elle-même. Le multiculturalisme. Au départ, entendu comme ouverture aux autres cultures, c'est évidemment une idée sympathique. À part quelques moments de repli sur soi, d'habitude je n'emploie pas ce terme devenu trop automatique, de fermeture totale ou de méfiance paranoïaque pour différentes raisons, les cultures se sont toujours à la fois concurrencées et nourries les unes les autres. Exemple classique, Picasso, le catalan, qui vient à Paris. On connaît la suite. L'histoire est faite de ces enrichissements mutuels, de ces emprunts féconds. Cela se voit de façon éclatante dans l'histoire des langues, sauf quand une langue domine trop, dans le parcours des créateurs, dans les influences artistiques, qui croisent de façon moins antagoniste qu'on ne le croit une autre histoire, celle des racines, de la mémoire et de la transmission, donc de l'identité. Et on a vu aussi, à l'inverse, des cultures trop isolées, trop autarciques, pour des raisons géographiques, religieuses ou idéologiques, finir par se dessécher, et pas qu'à l'île de Pâques. Donc, vive l'échange fécond entre cultures vigoureuses, à la fois populaires et créatrices. Voyez encore un autre exemple, celui du cinéma qui a dominé le XXe siècle. Tout cela est très positif. Le problème apparaît quand le multiculturalisme cesse d'être une richesse vécue pour devenir une sorte d'obligation réparatrice qui n'est invoquée que par des Occidentaux complexés, plus précisément par des Européens de l'Ouest catholique ou protestants ou qui l'ont été, même s'ils ne s'en rappellent plus, et pas du tout par des orthodoxes russes, ni par des Chinois, des Indiens, encore moins par les musulmans. C'est à partir de là que le bât blesse. L'injonction multiculturelle européenne contemporaine ne consiste pas à se passionner pour les arts premiers ou à découvrir Amitav Ghosh ou Harari ou les prix Nobel de littérature écrivant dans des langues peu connues. Mais plutôt, sous le coup d'injonctions vengeresses, cela consiste à privilégier la culture des autres, spécialement des peuples qui ont été colonisés, la privilégier sur la sienne propre, et donc celle de l'autre, comme on dit aujourd'hui, avec un grand A, selon le catéchisme moderne. Mais si les Européens n'assument plus leur histoire, la rejettent, ou la nient, l'oublient, ne la transmettent pas, ne veulent que l'expier, que vont-ils apporter dans l'échange multiculturel? Des remords? De l'abandon linguistique ou conceptuel? Une gêne d'être soi-même, comme la position absurde de ceux qui nient l'évidence des origines chrétiennes de l'Europe, je dis bien les origines, je ne parle pas de l'Europe d'aujourd'hui, y compris origine de celle de la Renaissance et de la suite. Au bout du compte, le multiculturalisme à l'européenne, en Europe de l'Ouest, risquerait de se réduire à proposer un espace vide, des locaux sans âme pour des débats nourris de concepts inconsistants, tels que le vivre ensemble, au désespoir de tous ceux dans le monde, à commencer par les musulmans modernistes et réformateurs, pas assez soutenus, mais qui comptent sur nous, de tous ceux qui luttent partout pour une plus grande ouverture de leur société, tous ceux qui attendent de l'Occident qu'il soit ouvert, accueillant, lucide naturellement sur son passé, mais qu'il reste aussi une des sources d'invention du monde de demain, qu'il ose s'affirmer, qu'il fournisse plus qu'un système d'échange pleurnichard ou un cadre pour des réunions aseptisées. Et tout cela est particulièrement vrai pour nous, les Européens. Donc si nous voulons apporter quelque chose dans l'échange culturel de demain, absolument souhaitable, nous devons retrouver confiance en nous.
Merci Hubert Védrine. Une chronique à retrouver sur franceculture.fr où vous pourrez également retrouver toutes les références de l'émission Une semaine dans le monde. Un grand merci à toute l'équipe pour la préparation, Xavier Martinet, Fanny Richer et Mao de Butler. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis à la prise de son. Aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Meige. On se retrouve dimanche prochain, 12h40. Le samedi à la même heure, vous avez rendez-vous avec Julie Gacon pour Une semaine en France. En attendant, il est presque 14h sur France Culture, très bel après-midi.